Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand est de retour dans nos studios de la rue François 1er. C'est bien, hein, après son incursion d'hier à Saint-Germain-des-Prés. On est content que vous soyez là. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Que diriez-vous d'aller faire un petit tour en Méditerranée au temps de la Renaissance? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Nous allons revivre, comme si nous y étions, l'une des plus formidables batailles navales de tous les temps. Celle qui, en 1571, a opposé l'armada des puissances chrétiennes coalisées à la flotte turque de l'Empire ottoman. Autant dire un choc de civilisation, un combat de titans qui devait entrer dans l'histoire universelle sous un nom mythique, la bataille de Lépante.
Alors si vous avez des questions à poser à Franck et à son invité, vous connaissez la marche à suivre, il suffit d'aller sur le site internet d'Europe 1.
Mon invité aujourd'hui, c'est le biographe de Don Juan d'Autriche, ce fils naturel de Charles Quint qui, à seulement 24 ans, dirigeait à Lépante toute la flotte de la Sainte Ligue.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Au commencement de cette affaire, il y a la rivalité des Turcs et des Vénitiens en Méditerranée orientale, une rivalité qui est avant tout commerciale. Il se trouve qu'en prenant le contrôle progressif des comptoirs vénitiens, les Ottomans ont gêné la Sérénissime République. En 1570, Venise envoie une escadre pour défendre l'île de Chypre, qui est vraiment menacée par les Turcs. À cette époque, la Turquie ottomane est ce que nous appellerions une superpuissance. Depuis l'avènement de Soliman le Magnifique, c'était en 1520, le sultan de Constantinople n'en finit pas d'étendre son empire. Et l'actuel sultan, Selim II, continue cette politique expansionniste. Or, face à un empire musulman surpuissant, se dresse un empire chrétien qui lui aussi, à cette époque, connaît son apogée. On est à l'époque de l'Espagne du siècle d'or. C'est Philippe II, le fils de Charles Quint, qui se trouve sur le trône d'Espagne. Or, non seulement l'Espagne est devenue très riche grâce à l'or des Amériques. À l'époque, cette couronne castillane domine le Mexique, le Pérou, etc. Vous savez bien. Mais le pouvoir des Habsbourg espagnols s'étend très loin jusqu'aux Pays-Bas, toute la Flandre, en Italie, ce qu'on a tendance parfois à oublier. À l'époque, Milan, Naples, la Sicile vivent à l'heure espagnole. Presque toute l'Italie, finalement, sauf Venise, évidemment, mais Venise est déjà sur la pente descendante. Les liaisons entre l'Espagne et l'Italie sont à l'époque menacées par les barbaresques. Nous en avons parlé il y a quelques semaines maintenant à propos de Cervantes. On est à l'époque de tous ces pirates d'Afrique du Nord qui dominent la Méditerranée. Alors donc, des motivations commerciales du côté de Venise, des motivations politiques du côté de l'Espagne. Il fallait un catalyseur à tout ça, et le catalyseur, évidemment, il est à chercher du côté de la papauté. Le pape Pie V est très inquiet de l'expansion des Turcs, et il s'en va prêcher une nouvelle croisade contre l'islam. Les Espagnols, les Vénitiens, tout ce monde-là va se réunir, il y a de très longues négociations, et puis finalement, à Rome, le 20 mai 1571, un pacte est signé, c'est la création de la Sainte Ligue. On met toutes les forces de ces puissances catholiques ensemble, avec trois chefs essentiellement, un Vénitien, Sébastien Vénière, un Génois, le grand capitaine Andrea Doria, et puis un représentant du pape, Marc-Antoine Colonna, tout ce monde-là, sous l'autorité d'un chef suprême, et c'est le moment de faire connaissance avec celui que les alliés du jour ont choisi pour présider aux troupes de la Sainte Ligue. Il s'agit de Don Juan d'Autriche, Don Juan, devrais-je dire. Voilà un fils naturel de Charles Quint avec une bourgeoise, il est donc le demi-frère du roi d'Espagne Philippe II. Il a 23 ans pour l'instant, c'est un garçon très beau, très fougueux, un grand guerrier qui va galvaniser littéralement les troupes de la Sainte Ligue. Il suffit qu'il apparaisse sur le pont de son navire amiral, ce Don Juan d'Autriche, tout vêtu de rouge, car il a le sens de la mise en scène, pour que les équipages l'ovationnent. Regardez, nous sommes le matin du 1er juillet 1571 dans le port de Barcelone. Imaginez, on est en juillet à Barcelone, il fait très chaud, hein, l'air est déjà étouffant dans la matinée et on n'entend qu'une longue ovation au moment où Don Juan d'Autriche paraît sur le pont de sa réale, qui est sa réale, hein, son navire amiral, qui est complètement couvert de bannières et d'étendards rouges et or. 47 galères plus la réale ont été ancrées à Barcelone. Vous imaginez le spectacle que ça représente, hein, toutes ces gréements multicolores. Les bordages sont tendus de velours rouge, vous imaginez. On visite bien sûr le navire amiral, une suite très brillante accompagne Don Juan d'Autriche, et quand il va rentrer au palais du vice-roi, eh bien là il a une lettre de Philippe II qui lui demande de se montrer discret, qui notamment lui interdit d'utiliser le titre d'altesse. Vous voyez quand même que la politique et les rancœurs personnelles ne sont jamais très loin. Toute cette flotte va traverser donc la Méditerranée jusqu'à l'Italie en deux convois successifs, un qui part le 2 juillet, l'autre le 20. Le premier fait 11 galères, le deuxième 37 galères. Et il faut imaginer cette flotte espagnole qui, après une escadre à Gênes, descend jusqu'au détroit de Messine, hein, à la pointe de la botte italienne. On est là dans la soirée du 23 août et c'est le grand rassemblement de toutes les puissances coalisées. 300 voiles, 30 000 soldats, 50 000 rameurs et marins, Gênes, Naples, la Sicile, le Vatican, la Savoie, même l'ordre de Malte, toute la chrétienté s'est coalisée sous les ordres du jeune chef.
Un extrait sur Europe 1 de Mito Dea, signé Vangelis Franck.
Messine est donc devenue pour quelques jours la capitale incontestée de la chrétienté. Vous avez cette mer couverte de navires et sur les navires, évidemment, beaucoup de prêtres, des chapelains. Sur les bateaux espagnols, des jésuites, sur ceux de Venise, de Gênes, de la Maison de Savoie, des aumôniers franciscains essentiellement. Mais dans tout ça, une grande ferveur religieuse. Vous entendez, écoutez cette clameur immense qui accueille l'arrivée depuis Rome sous la haute garde d'un cardinal du petit reliquaire qui renferme une esquille de la vraie croix, autant dire l'écharde la plus précieuse du monde. Pie V l'offre au commandant de la Sainte Ligue, donc à Don Juan d'Autriche, qui va la porter en sautoir à une grosse chaîne d'argent qu'il aura désormais autour du cou. Le cardinal monte en chaire, il annonce des indulgences exceptionnelles comme on le faisait jadis pour les croisés, et les milliers d'hommes qui sont réunis, qui sont serrés là, se sentent investis, je crois que le mot n'est pas trop fort, d'une véritable mission divine. Pendant ce temps, Don Juan ne perd pas de temps. Il a mis, la répétition n'est pas très belle, enfin, en tout cas, il est à peu près partout. Il a mis sur pied tout un ordre de bataille très précis, et notamment il a fait un certain nombre de réformes dans les armements. Notamment sur les rambardes des navires sont installés de gros tabliers. Les rameurs musulmans ont été équipés de gantelets rigides pour éviter qu'ils ne se transforment en combattants de l'intérieur. Et puis en secret, le matin du combat, on verra tout à l'heure pourquoi, on a fait scier les éperons d'acier des proues de toutes ces galères. La flotte est parée au combat, on n'attend plus que le moment d'aller en découdre, et voilà que les 120 galères de Venise avec leurs mâts rouges, remorquant 6 grosses galéas chargées de canons, ce sont les cuirassiers de l'époque si vous voulez, et commandés par le vieux Vénière avec sa très grande barbe blanche, hein, ce marin vénitien digne d'un conte local, 160 voiles espagnoles et génoises, 18 galères du pape, toute cette énorme flotte se met en branle avec à l'arrière la réale sur le navire amiral. L'équipage s'est agenouillé pour recevoir la bénédiction du cardinal. Don Juan contemple sa puissante flotte au grand mât. de son navire amiral, il a fixé un crucifix de bois qui représente, on voit le visage et le flanc du Christ qui ont été brûlés. Hein. En vérité, c'est le tuteur de Don Juan d'Autriche, on en parlera tout à l'heure, qui avait sauvé ce crucifix lors d'un combat contre les morts et son pupille avait juré de ne jamais s'en séparer. Il faut vous dire quand même qu'à bord des navires chrétiens, on n'est pas très rassuré. Je dirais même que globalement, on a peur. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, les Turcs ont pris Nicosie, puis toute une partie est de Chypre. On peut dire même maintenant que Chypre est tombée entre leurs mains. Le commandant de Famagouste a été découpé en morceaux par les Turcs. Un autre chef vénitien à cette occasion a été écorché vif et on a gonflé sa peau de paille pour en faire une sorte d'épouvantail. Quand, le 28 septembre, l'armada de Don Juan fait escale à Corfou, le port est encore tout fumant du saccage qui vient d'être perpétré par les Ottomans. Des Ottomans qui sont tout puissants en Méditerranée, des Turcs que l'on croit invincibles et qu'il faut néanmoins aller combattre.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur d'une des plus grandes batailles navales de tous les temps où se sont affrontées les deux plus grosses flottes qui aient jamais vogué en Méditerranée, la bataille de Lépante.
La bataille de Lépante, on est donc en cet été 1500, enfin fin de l'été, début de l'automne 1571, au moment où après une deuxième escale sur la flotte albanaise, la flotte chrétienne parvient dans les eaux où croise la flotte ottomane de l'amiral Ali Pacha. Ils se sont rassemblés, les arrivants, entre Zante et Missolonghi, devant une base turque qui s'appelle Lépante. Cette fois, nous y voilà. Qui est l'amiral de cette flotte turque? C'est le gendre du sultan Selim II, Ali Pacha. Personnage considérable, très grand chef. Donc pour le moment, du côté chrétien, on peut dire que c'est plutôt la discorde qui règne. Don Juan d'Autriche a beaucoup de mal à asseoir son autorité sur des chefs qui sont tous jaloux de la leur, évidemment. Le 6 octobre, il réunit ses capitaines et il décide donc de passer à l'attaque. Or, évidemment, un certain nombre des chefs alliés ne sont pas d'accord. Et parmi eux, Andrea Doria, qui supplie Don Juan d'Autriche de renoncer à l'attaque. Les Turcs ont un avantage écrasant, dit-il. Ils ont derrière eux une base, un arsenal. Et nous n'avons que la mer. Il est de mon devoir de vous convaincre de renoncer. Seulement, le jeune commandant est bien trop déterminé pour renoncer. Ce n'est plus l'heure d'hésiter. Et nous sommes déjà en cette aube fameuse du dimanche 7 octobre 1571. La région où va avoir lieu le combat, c'est celle, la région maritime, si l'on peut dire, c'est celle de l'antique Actium, qui, vous savez, après la mort de Jules César, avait déjà vu les navires d'Octave, le futur Auguste, l'emporter sur ceux d'Antoine et de Cléopâtre. C'est un lieu propice aux batailles navales. Don Juan a embarqué sur une frégate légère pour passer ses forces en revue, pour galvaniser les équipages. Et dès qu'il paraît à la haute passerelle, le jeune commandant en chef déclenche une ovation incroyable chez dans tous les équipages. À Marc-Antoine Colonna, il dit « Amiral, c'est aujourd'hui qu'il faut sortir vos griffes. » Et quand il monte sur la capitaine d'Alexandre Farnèse, il y a une telle ovation, on s'arrache ses gants, son chapeau, il remontera à bord de sa réale tête nue. Alors voilà comment Don Juan d'Autriche a disposé ses forces. Imaginez deux immenses lignes en ordre de combat, donc au nord les chrétiens, au sud les turcs. Et vous avez alors au centre du dispositif des chrétiens, vous avez Don Juan évidemment avec les forces espagnoles, à sa droite les génois et les pontificaux, à sa gauche les vénitiens, et en face, vous avez donc, alors devant, en avant, il a fait avancer les galéas vénitiennes, et puis en face, vous avez, regardez, donc vers le nord, Ali Pacha au centre, et puis sur sa droite, le Pacha d'Alexandrie, et sur sa gauche, le Dey d'Alger. Cette fois, les Turcs sont donc plus qu'en vue, ils s'avancent, hein, c'est très impressionnant. On entend se rapprocher le bruit terrifiant des boucliers qu'on entrechoque, et des coups de mousquet que tirent les Turcs en l'air pour faire du bruit. Et du côté de la Sainte-Ligue, en revanche, c'est le silence total. Sans doute un peu inquiet, tous les équipages sont tombés à genoux comme un seul homme. Or, soudain, le vent tourne, d'est il passe à vent d'ouest, ce qui est favorable aux voiles chrétiennes. Les deux flottes se font donc face. Au fond du croissant turc, la capitane d'Ali Pacha, la sultane, est entourée des galères des janissaires. Juste avant midi, ce 7 octobre, la bannière blanche de la Sainte Ligue est hissée au mât de la Réale. Premier coup de canon, ça c'est le signal du combat, et c'est l'engagement du combat. Or, ce premier coup de canon, le boulet est allé atterrir sur le grand fanal de la sultane. Et ça, c'est vécu par les équipages comme un signe très propice, bien entendu. Maintenant, ça y est, les deux flottes sont en train de se précipiter l'une contre l'autre. La bataille de Lépante a commencé. L'engagement est particulièrement violent. La sultane et la Réale vont s'aborder par le travers, assez vite. Don Juan, avec 400 Espagnols casqués, essaie d'aborder la sultane. Il y a comme ça des allers-retours hein, d'un navire amiral à l'autre. C'est une mêlée absolument incroyable. Corneille, vous savez combien d'exploits célèbres sont accomplis sans gloire au milieu des ténèbres. En l'occurrence, beaucoup de corps à corps, une bataille extrêmement violente avec des corps qui tombent à l'eau. On continue parfois à se battre une fois tombés à l'eau. Au bout d'un moment, il apparaît que les forces chrétiennes sont plutôt en difficulté. Et ce n'est pas l'attitude d'Andrea Doria qui arrange les choses, puisque lui laisse s'ouvrir carrément une brèche dans la ligne chrétienne. Les galères du dé d'Alger s'y engouffrent et elles vont pouvoir prendre comme ça à revers la capitane de Malte. C'est la division de réserve du marquis de Santa Cruz qui vole à son secours. Au plus fort de la mêlée, Don Juan d'Autriche a réussi quant à lui à prendre pied. Cette fois c'est bon, sur la sultane, il approche de l'amiral turc au moment où Ali Pacha reçoit une balle d'arquebuse en pleine tête. La balle le décapite. Littéralement. Seulement, la Réale, maintenant, se trouve seule au milieu de six navires turcs. Et c'est à ce moment-là que Marc-Antoine Colonna va jouer un rôle décisif. Il dégage la Réale. Les troupes peuvent donc voler au secours de leur jeune chef en difficulté. Il faudrait pas croire que les chapelains, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, tous ces hommes d'église, se mettent en retrait. La plupart, évidemment, participe au combat. L'un d'eux va d'ailleurs parvenir tout en se battant jusqu'au grand mât de la sultane où il amène l'étendard vert et or du prophète et où il le remplace par un crucifix. Cette fois, la sultane est prise dans un état de confusion indescriptible. On dit que du sang sortait par les écoutilles, vous imaginez. Il est près de 5 heures lorsque la bataille, qui donc est commencée depuis midi, touche à sa fin. Don Juan est blessé à la cheville. Il met le cap sur l'île de Pétala et il emporte comme prisonnier les deux jeunes filles des deux jeunes fils d'Ali Pacha. Le bilan militaire sert à lui seul de conclusion à cette affaire. 62 dans l'histoire, hein, 62 galères ottomanes ont été coulées, 117 ont été capturées, 13 galiotes et beaucoup de canons de même. 3846 Turcs sont faits prisonniers, ils vont aller grossir les chiourmes des galères chrétiennes. 15 000 esclaves chrétiens en revanche sont libérés. 30 000 Turcs sont morts dans cette affaire, contre seulement 7 500 chrétiens. Il faut dire que côté chrétien, il y a 20 000 blessés. Les plus grosses pertes sont du côté des Vénitiens, qui ont perdu 4 000 hommes dans l'histoire. Au-delà de ce bilan purement comptable et militaire, la défaite navale des Turcs est patente et ça va changer la donne en Méditerranée, évidemment. On ne peut pas dire qu'on a anéanti la puissance maritime de la Turquie ottomane, non sûrement pas, mais la flotte de la Sainte Ligue a quand même singulièrement amenuisé ses forces. On a coupé la barbe du sultan, ce sera l'expression de l'époque. Si la République de Venise est donc un petit peu libérée par cette histoire, elle se sent moins prisonnière de la menace turque, ce n'est que pour un temps, puisque quelques mois après Lépante, les Vénitiens vont conclure une paix séparée avec les Turcs qui récupèrent Chypre. Et on peut dire que dans cette affaire, surtout, Venise s'est beaucoup épuisée et que c'est pour elle le début d'un véritable déclin. Évidemment, c'est le royaume d'Espagne qui apparaît comme le grand bénéficiaire de l'affrontement. Désormais, les Espagnols ne craindront plus les barbaresques. Ils sont délivrés du danger immédiat que faisait peser la Turquie sur leur propre expansion en Méditerranée. On peut dire que Philippe II est doublement satisfait. On sait qu'à l'époque, il avait passé des instructions secrètes à Doria. On va y revenir dans un instant si vous voulez, mais son but secret était aussi d'affaiblir Venise. La parole de la conclusion, elle revient à Fernand Brodel, le grand historien de cette Méditerranée du temps de Philippe II. La guerre, nous dit Brodel, après les pentes, déserte le centre de la Méditerranée. Oh, rassurez-vous, elle va s'en aller ailleurs, et notamment du côté de l'Atlantique et de la Manche, ce sera bientôt l'affrontement entre l'Espagne et l'Angleterre.
The Battle of Kerak, bande originale du film Kingdoms of Heaven, un film de Ridley Scott, Franck.
Et dans un instant, Julia, nous accueillons...
La virgule.
Là, nous accueillons la virgule et maintenant, moi j'accueille notre invité, Jean-Pierre Bois, qui est l'auteur chez Talendier d'une biographie de Don Juan d'Autriche.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous parlons de la bataille de Lépante avec notre invité Jean-Pierre Bois, qui est agrégé docteur en histoire, spécialiste des relations internationales et d'histoire militaire, Franck.
Qui a enseigné évidemment l'histoire à l'université de Nantes. Bonjour Jean-Pierre Bois, merci d'être des nôtres. Votre terrain de jeu habituel, c'est la guerre et les relations diplomatiques. Moi je vous connais, c'est mon côté amoureux de Louis XV, je vous connais sur les affaires de Fontenoy, de Maurice de Saxe, etc. Mais vous êtes aussi beaucoup intéressé à la bataille de Lépante, ne serait-ce que comme biographe de Don Juan d'Autriche. Nous allons revenir sur ce jeune chef flamboyant dont je n'ai fait qu'esquisser à grands traits un portrait un petit peu brumeux. On va le définir davantage et puis montrer à quel point sa trajectoire aura été courte en même temps que brillante. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur la bataille elle-même. Sur ses conséquences, bien sûr, on y vient dans un instant, mais aussi et avant tout sur ses enjeux au départ. Pourquoi la Sainte Ligue et la flotte ottomane s'affrontent-elles ainsi à Lépante? Il faut déjà peut-être qu'on fixe Lépante, hein, on est au Péloponnèse, hein, on est au large de la Grèce là en fait. Hein. Enfin,
oui,
même pas au large, enfin, on est sur le long de la côte.
Les petites îles qui longent la côte grecque, Corfou, Ithaque, Céphalonie. Et il y a trois points de vue. Il y a l'enjeu de l'année 1571, ce combat que vous avez décrit, qui est finalement de bloquer l'avancée ottomane qui a repris. Parce que l'Empire ottoman a été conquérant, ça fait deux siècles qu'il est conquérant, qu'il avance.
Les conquérants procèdent comme la fièvre, par poussée en fait. Et là, il y avait une nouvelle poussée turque.
Il y avait une nouvelle poussée. La dernière, c'était celle de Rhodes. Et puis, il y a eu, Rhodes, à peu près à la même époque, la bataille de Mohács, en Hongrie, avec le roi Louis Jagellon. Il y a eu une reprise avec le siège de Malte, 1565. Et là, on est dans le même mouvement. Donc, il faut bloquer. Avec un... passage du conflit terrestre au conflit maritime. Jusqu'alors, la progression ottomane était sur terre. L'objectif, c'était Vienne. Et avec Selim, l'objectif semble devenir maritime. Malte, il y a Tunis de l'autre côté, où Charles Quint est descendu à Tunis, qui a été reperdu depuis. Et il y a une sorte de frontière dans cette Méditerranée, une frontière qui se dessine, elle n'est pas construite évidemment, qui irait de Tunis à Malte, de Malte à la Sicile, de la Sicile à la Calabre, de la Calabre aux îles qui longent la Grèce.
Frontière tacite en fait.
Oui, une frontière. Et c'est le long de cette frontière, c'est toujours sur la frontière qu'on se bat, c'est le long de cette frontière qu'on se bat. Malte était à l'une des extrémités, si l'on veut, de la frontière. Lépante, Axium, vous l'avez rappelé, est à l'autre extrémité de cette frontière. Et... l'enjeu, c'est la domination de la Méditerranée, qui est, vous l'avez dit, à la fois économique et commerciale, c'est Venise, mais également religieuse. Il y a d'un côté la Méditerranée catholique, espagnole et catholique, et de l'autre côté la Méditerranée infidèle. C'est le mot qu'on emploie à l'époque, c'est infidèle. On dit ottomane ou infidèle plutôt que musulmane.
Petite parenthèse, si vous permettez, Jean-Pierre Bois, avant de revenir sur ces enjeux, que fait la France là-dedans ?
Elle regarde, c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Elle regarde parce que, premièrement, elle a quand même ses problèmes à elle, à la même époque. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous avons les guerres qui commencent guerres de religion qui commencent avec François II, puis Charles IX. Et Catherine de Médicis, elle a géré, outre les guerres de religion, un petit roi qui n'est quand même pas un foudre politique, Charles IX. D'une part. D'autre part, il y a pour la France toujours le vieil enjeu, alors continental lui, de l'opposition avec l'Empire. Vous savez, les deux maisons, Valois-Habsbourg, plus tard Bourbon-Habsbourg.
Donc on ne serait pas fâché que les Turcs mettent une petite pâtée au Habsbourg à l'occasion? On l'a déjà fait dans le passé.
Ça dépend quel pâté. Mais si voilà.
Oui. L'ampleur du pâté.
Oui, il faudrait que la portion soit pas trop grosse.
D'accord. Hein. Alors je ferme cette parenthèse évidemment bien, de façon bien étanche, et je reviens à cette bataille de Lépante. Dans quel état d'esprit les deux belligérants abordent-ils le combat ? Du côté, si je puis dire, hein, vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que les Turcs sont relativement confiants et que la Sainte Ligue, qui n'est jamais qu'une alliance et qui n'est pas composée évidemment d'une même puissance cohérente, est un peu plus inquiète.
Avec pour la Sainte Ligue une force particulière qui ne caractérise pas spécialement la flotte ottomane, qui est la conviction religieuse.
Religieuse, oui,
vous avez rappelé la petite esquille, naturellement.
Oui, bien sûr.
La personne
une grande ferveur religieuse, oui.
Qui vient de gagner, si l'on peut dire, la guerre des Morisques. Donc il y a quand même une sorte de conviction religieuse. En plus, ça donne de la force. Pour le reste, du point de vue purement militaire, on sait que les Turcs sont les plus forts.
Voilà, c'est ça.
Ben, ça n'a jamais empêché d'aller à l'attaque, ça. Bon, on le sait, et ils auraient été les plus forts, mais faire l'histoire conditionnelle, c'est pas bon, s'ils avaient été de bons marins. L'un des problèmes de la bataille de Lépante, c'est que cette bataille, c'est un combat naval.
Mais, alors, un combat naval mené par des fantassins.
Voilà. Mené par des hommes de terre. Vous voyez, fantassins, il y a quelques cavaliers, mais on amène des chevaux sur les galères. C'est peut-être très beau pour l'image, c'est pas très utile pour le combat. Et en réalité, Don Juan résonne en fantassin. Mais il se trouve que les Turcs également, le Ali Pacha, Muezzinade Ali Pacha, le Capoudan Pacha de la flotte ottomane, lui aussi c'est un terrien. Et les deux hommes, Don Juan et Ali Pacha, alors qu'ils ont un morceau de mer idéal pour l'opération navale, il y a les îles d'un côté, il y a le golfe de Corinthe qui arrive de l'autre côté, on peut bloquer une flotte. Si les Turcs avaient été habiles, ils auraient laissé rentrer la flotte catholique et après ils l'auraient prise à revers, c'était perdu. En réalité, ils raisonnent comme des hommes de terre et ils mettent en présence ce que vous avez décrit, deux lignes. Vous venez d'évoquer dans votre brève introduction la bataille de Fontenoy. Historien de la bataille de Fontenoy, je trouve que le plan sur le papier c'est le même.
C'est étonnant.
Vous avez deux lignes.
C'est une bataille de terre qui a été menée sur mer, en fait.
Par des hommes de terre, oui.
Avec une grande violence.
Avec une violence qui n'existe pas dans les batailles de terre, mais alors là, elle est due au fait que l'enchevêtrement des galères est terrifiant. C'est pas très gros, une galère. Les plus grosses font 45 mètres, il y en a qui font 15 mètres. Elles ont des rames qui font jusqu'à 15, 20 mètres. Une fois que les rames sont entremêlées, c'est pas la peine de taper sur la chiourme, le bateau n'avance plus. Et les galères s'embrochent les unes, pas forcément de la proue, contre la proue.
On a
la coque,
d'ailleurs scié, mais, hein,
les proues. Hein. Mais les rames se bloquent. Et du coup, on a le pont des galères, qui devient une sorte de tout petit morceau de champ de bataille terrestre, avec des fantassins d'un côté et des fantassins de l'autre côté.
Juste d'un mot, parce que j'ai promis cet éclaircissement tout à l'heure à nos auditeurs. Pourquoi est-ce que Don Juan fait scier les proues de ses propres galères ?
C'est pour rendre plus aisé le maniement de son artillerie. D'abord, il ne veut pas qu'on aille embrocher les bateaux turcs, car ça bloque la galère. C'est
une question de mobilité, en fait.
Absolument. Et puis, dégager le terrain pour l'artillerie. L'arme secrète, en cela la bataille est originale également, hein. L'arme secrète, si j'ose dire, de Don Juan, c'est l'artillerie, que les Turcs n'ont pas en proportion comparable. Hein. Et si on laisse les pointes aux galères, elles piquent le nez, et quand on tire le boulet, il tombe dans l'eau. Mmh. Eh bien, il faut que ça tombe, comme vous l'avez dit, sur la voile. Et la sultane est la première à avoir fait l'expérience de cette espèce d'allègement qui relève la pointe et hop, le boulet s'en va.
Qui était ce jeune commandant très charismatique de 24 ans ? Nous y venons avec son biographe dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Don Juan d'Autriche aux éditions Talendier, c'est le titre du livre de notre invité sur Europe 1, Jean-Pierre Bois, Franck.
Et c'est le sujet de cette dernière partie de l'émission. Qui était ce personnage qui était capable littéralement de galvaniser les troupes alliées de la Sainte Ligue en 1571 ? C'est donc un tout jeune chef, hein, il a 23-24 ans à l'époque. 24 ans. Il s'habille d'écarlate, et il apparaît, ça c'est pour qu'on le voit de loin j'imagine.
Oui, puis c'est pour ne pas être en noir comme
les
autres.
Oui, c'est ça. Donc il est grand, il est beau, il est extrêmement charismatique, il faut dire, et il est capable de galvaniser les foules.
Oui, absolument. Il tranche un petit peu par rapport à toute la noblesse qui entoure, qui peuple la cour d'Espagne et qui entoure le roi Philippe II, son frère.
Son demi-frère, en fait, oui, c'est
ça. Son demi-frère, oui. Ils se sont découverts tard, puisqu'il a eu une enfance finalement cachée. Il est fils bâtard de Charles Quint qui s'ennuyait un jour à Ratisbonne et le petit Don Juan est né à ce moment-là, immédiatement retiré à sa mère. Il a été élevé. Charles Quint en a tout de suite pris soin. Il a veillé de très loin, mais il a veillé à son enfance. Une première mère, on va dire nourricière, Anna de Médina, qui ne lui a rien appris du tout. Et en gros, à l'âge de 7 ans, il est retiré à cette pauvre Anna, qui ne le reverra plus d'ailleurs. Et il est confié à Don Luis Quijada, qui lui était un homme remarquable et qui, vous imaginez la scène, qui arrive un jour chez lui en disant à sa femme, voilà femme, nous avons ce petit jeune homme maintenant élevé. Évidemment, son épouse, Donna Magdalena de Ulloa, elle a cru que le père c'était lui-même, évidemment, mais en Espagne on se tait et on assume. Elle a élevé le petit gars et elle l'a élevé remarquablement.
Ah oui, c'est
elle
ça.
Lui a donné beaucoup d'affection. Son père nourricier s'est beaucoup intéressé à lui. Il rend des comptes à l'empereur. L'empereur l'a toujours suivi. L'empereur s'est intéressé à lui. Il a eu de l'affection, de l'instruction. Et puis, lorsque l'empereur meurt, il a 11 ans, il a cette curieuse épreuve pour un gamin de 11 ans qui ne sait pas trop d'où il vient, de passer les deux derniers mois de la vie de l'empereur avec lui. Il est à Yuste, dans le monastère, il court, il va, il vient. Il a mis un petit peu de joie dans les derniers jours de Charles Quint. Et Charles Quint, dans son testament, annonce à Philippe II qu'il a ce demi-frère.
Donc à son fils légitime roi d'Espagne.
Oui. Et il lui demande de le prendre, de s'occuper de lui, en lui disant, faisant un archevêque. Parce que c'est une solution facile. Mais le gamin n'a pas tellement de vocation pour être archevêque. Philippe II s'est pris d'affection pour lui. On décrit très souvent la présence
alors
de Philippe
II.
Alors
ça, c'est intéressant parce que oui. Vous montrez-vous qu'en fait, oui. Il y avait une relation tout à fait loyale, oui. Et belle entre ces deux frères.
Oui.
Et c'est pas l'image que l'histoire a gardée. On a toujours l'impression d'une jalousie, de déloyauté entre
absolument. Je crois que c'est parce qu'il est beaucoup plus facile, pittoresque, de décrire la jalousie, la méchanceté, la
méchanceté,
employer tous les mots que vous voulez. Il y a chez Philippe II la raison politique. Alors là, la raison d'État, il connaît Philippe II. Hein. Le destin de Don Carlos se montre.
Oui.
Et il ne veut surtout pas que Don Juan fasse la moindre début de commencement de tentative pour accéder au trône.
Tout le monde n'est pas très féru d'histoire espagnole, évidemment. Parlez-nous du destin de Don Carlos en quelques mots.
Don Carlos, le fils de Philippe II, qui donc est le prince des Asturies et qui doit lui succéder.
Qui est l'héritier du trône d'Espagne.
L'héritier du trône, et c'est le premier qui, dans la famille des Habsbourg, a payé très cher la consanguinité. Il est difforme, il est pas intelligent, il est méchant. Et il n'a rien d'un futur grand roi d'Espagne. Philippe II en souffre énormément, mais il est légitime. Et Philippe II ne veut pas que Don Juan, qui lui est brillant, beau, il n'est pas très instruit, mais il aime le sport, il est bien à la cour.
Il a tout pour être un grand roi, évidemment. Il aurait tout.
Il aurait tout pour être un grand roi. Et Philippe II ne le veut pas, donc il le tient à l'écart. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Mmh. Et quand on voit les mots privés qui s'écrivent l'un à l'autre... Moi, j'ai toujours senti chez Philippe II beaucoup d'affection pour Don Juan, tout en ayant la résolution très ferme de le maintenir à l'écart.
Oui, de lui tenir la bride, quand même.
Il ne faut surtout pas qu'il devienne le prétendant, d'autant plus que Don Carlos finit sa vie malheureusement, après s'être rebellé contre son père. Il meurt, et au moment où il meurt, Philippe II n'a pas d'autre fils. Il n'a que des filles. Donc, qui pourra succéder à ce roi? Et à ce moment-là, la présence de Don Juan est un danger, on va dire, pour la dynastie, si vous voulez. Et Philippe II raisonne alors en homme d'État. Il est envoyé en Andalousie, guerre des Morisques. Il termine la guerre des Morisques, tac, il est envoyé à les Pentes, c'est-à-dire au loin.
On le tient le plus loin possible.
On le tient. Et il faut voir en même temps que Don Juan a toujours été très, très loyal à l'égard de Philippe II.
Alors voilà, ça, il faut le souligner.
Oui, il n'a jamais essayé de bousculer Don Carlos. Il avait de l'affection pour Don Carlos. Je le dis aussi, je l'ai senti, moi. Don Carlos me fait de la peine. C'est pas de sa faute s'il est comme il est. Le malheureux, il paye. Il paye pour les autres. Hein. Il y a deux personnes qui l'ont aimé. C'est pas beaucoup dans une vie, même quand elle est brève. Il y a la troisième épouse de Philippe II, Elisabeth de Valois, Isabella en espagnol. Et il y a Don Juan, qui est son oncle, hein, et c'est l'oncle et le neveu, avec la bâtardise en plus. Et Don Juan était proche de Don Carlos. Ils ont fait leurs études, si l'on peut dire, ensemble à Alcalá de Henares. Hein. Ils se connaissent, ils ont joué ensemble avec Alexandre Farnèse. Et Don Juan n'a pas suivi Don Carlos dans sa rébellion, mais il n'a pas accablé Don Carlos de haine ou de rejet. Hein. Je ne sais pas s'il l'a vraiment pleuré, mais là, on est à la cour d'Espagne. Aujourd'hui, les sentiments se cachent.
On est quand même très pudique.
Oui, oui.
Alors,
oui.
Il ne va pas vivre très longtemps, ce Don Juan d'Autriche. Non. Il a été non seulement le chef, mais le héros de la Sainte Ligue à Lépante. Il est devenu, en quelque sorte, le champion de la chrétienté. Oui. Ce qui, évidemment, pour le roi d'Espagne, est un problème. Et finalement, sa carrière s'arrête assez peu de temps après.
Elle s'arrête peu de temps après. Il y a trois événements à signaler. Le premier, c'est que quelques mois après les pentes, en décembre, je n'ai pas la date exacte en tête, un héritier est né au roi d'Espagne. La reine,
qui change la situation,
la quatrième épouse, était enceinte au moment de la bataille de Lépante. Elle donne un héritier au roi d'Espagne. Ça règle quand même un problème. Ça règle vraiment un problème. Mm-hmm. Deuxièmement, il y a l'éloignement de Don Juan qui est maintenu à Naples. Pendant 4 ou 5 ans, il fait le vice, j'emploie l'expression un peu plate, il fait le vice au roi de Naples. Il s'ennuie, mais il reste loyal. Et puis, à la fin de sa vie, il est envoyé dans les Pays-Bas pour régler le conflit avec les calvinistes. Il tombe dans une situation, je ne sais pas comment dire, je dirais presque à la belge. Hein. Il y a une faction pour Guillaume d'Orange, une faction pour les États de Bruxelles, une faction...
Grande division.
Oui, bien sûr, il y a une faction pour la Hollande, il y a une faction anglaise, il y a une faction française... Il y a François d'Alençon, duc d'Alençon, qui essaye de tirer son épingle du jeu. Il s'y perd complètement. Don Juan, il s'y perd. Et puis, il est jeune, vous l'avez dit. Il est plus usé par la vie qu'il a menée que les autres jeunes gens de son époque. C'est une vie de son temps qu'il mène, guerrier de combattant. Mais il tombe malade et il tombe.
Il meurt
à 31 ans.
31 ans. Et donc, c'est ce personnage très flamboyant et beaucoup plus humain que l'image qu'on en avait que vous nous décrivez dans cette très belle biographie Jean-Pierre Bois, Don Juan d'Autriche. C'est édité chez Talendier. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps en fait que je me disais j'aimerais faire une émission spéciale pour Franck Ferrand. Nous avons trouvé le thème. C'est l'engouement des Français concernant le camping-car. Alors
c'est totalement Franck.
C'est tout à fait vous. Vous pourriez aussi aimer. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de voyage? D'ailleurs, se tient actuellement au Salon du Bourget le salon des véhicules des loisirs qui a beaucoup de succès. Vous avez des questions, vous nous appelez au 3921 ou sur europe1.fr.
Vous avez su débusquer le routard qui est en moi.
Je l'ai vu.
Quelle femme psychologue, c'était Elena. Je vous embrasse.
Bon week-end, Julia.
Bon week-end à lundi, Franck.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.